Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous réinstaller pour ceux qui ont besoin de se réinstaller. Je vais faire un truc aussi qui est peut-être un petit peu bizarre, mais je pense que je vais descendre un peu parce que là, le fait de surplomber comme ça, moi, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, je ne sais pas si je peux traîner le truc jusque-là pour me mettre avec vous. Ah, je ne peux pas y arriver, c'est dommage. Bon, celui-là, ça fonctionne, tu penses ? Voilà, merci beaucoup. Bonne idée. Je vais me mettre ici avec vous pour être un petit peu moins en hauteur parce que ça me dérange un petit peu et je trouve que justement la disposition s'y prête pas forcément. On démarre si vous voulez bien. Merci. Donc moi je m'appelle Jamil Miss, je suis le responsable du développement de KissKissBankBank qui est le pionnier du financement participatif. Je suis aussi du coup cofondateur avec les équipes d'Acast et de Grand Contrôle de ce festival. C'est la troisième année que je suis là et que je prends la parole, ici une première fois, là-bas l'année dernière et puis de nouveau ici avec vous cette année. Et l'objectif de cette discussion, c'est de parler de ce que nous, on connaît le mieux chez KissKissBankBank, c'est comment est-ce qu'on anime et mobilise une communauté quand on est un créateur ou une créatrice d'un projet de podcast ou d'un projet culturel indépendant. La communauté dans le cas d'un projet indépendant, ça reste aujourd'hui le levier principal de financement pour beaucoup de créateurs et c'est le nerf de la guerre. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on le définit. Juste pour vous contextualiser, KissKissBankBank, ça fait 13 ans qu'on existe, on est les pionniers du financement participatif en Europe. On s'est créé quelques semaines après notre grand cousin américain qui est Kickstarter. On s'est créé au départ sur la culture, même si après on s'est ouvert sur d'autres thématiques. Aujourd'hui, la culture reste notre colonne vertébrale plus de 55% des projets qui font la réussite aujourd'hui de KissKissBankBank sont justement dans cette verticale-là, la culture indépendante, dans laquelle on va trouver du podcast, du documentaire, des revues, on va trouver de l'édition, etc. Moi aussi, pour contextualiser, ça fait un petit peu moins de 5 ans que je travaille chez KissKissBankBank et j'accompagne essentiellement des projets culturels avec 3 ans qui sont très forts, qui sont extrêmement importants pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai orienté KissKiss dans ce sens-là, qui sont la justice sociale, l'égalité des droits et les questions autour des enjeux climatiques. Et pour vous recontextualiser une toute dernière fois ce que je fais aussi, ou ce que j'ai pu faire chez KissKissBankBank, moi j'accompagne des porteurs de projets très très spécifiques qui vont de la déferlante par exemple à nous toutes, Sensor de Gaze Magazine, en passant par les documentaires de Cyril Dion ou la fresque du climat ou résistance climatique ou les projets de Camille Etienne, etc. Donc on est dans un petit microcosme qui je pense vous parle à toutes et à tous ici, et l'objectif de notre discussion c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut mobiliser et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on mobilise aujourd'hui une communauté. Avant de démarrer, je pense que, et vous allez le comprendre, je suis un passionné du contexte, avant de démarrer, je pense qu'il faut aller encore un petit peu plus loin dans le contexte. On est aujourd'hui dans une position qui est très spécifique quand on est un créateur indépendant. Il y a 3 menaces qui pèsent. Je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais il y a 3 menaces qui pèsent sur la création indépendante aujourd'hui. Il y a d'un côté un glissement idéologique, politique qui est très fort, avec une montée des mouvements qu'on pourrait qualifier de nationaux populistes, en gros en Europe et du coup aussi en France, qui ont pour souvent premier réflexe de s'attaquer à la culture indépendante quand ils veulent s'imposer. La deuxième problématique, c'est des problématiques économiques qui sont aussi très fortes, parce que ça devient difficile de trouver des financements publics dans un contexte comme celui-ci, ça devient difficile de se financer par les canaux traditionnels. Et puis la troisième menace, et elle n'est pas à mettre de côté, c'est les GAFAM qui s'imposent de plus en plus et qui imposent une lecture du monde par une forme de tyrannie algorithmique qui empêche beaucoup de voix de s'exprimer et qui empêche beaucoup de personnes de pouvoir créer comme elles l'entendent et de propulser leurs idées dans le débat public. Nous, c'est à ça qu'on essaie de répondre aujourd'hui. C'est comment permettre aux créateurs et aux créatrices indépendants, qu'importe leur projet, qu'il soit un podcast ou qu'il soit une revue ou qu'il soit un documentaire, de se financer. Et si j'aborde la question à partir de ce contexte-là, c'est que pour moi, aujourd'hui, l'élément fondamental, c'est que quand on est un créateur ou une créatrice de culture indépendante, il faut qu'on réussisse à mobiliser des citoyens et des citoyennes autour du financement de notre création pour leur faire comprendre que sans celui-ci, en fait, il n'existera pas. Et ce dont on se rend compte chez KissKissBankBank depuis maintenant plusieurs années, avec une accélération très forte ces 2-3 dernières années, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup de citoyennes qui comprennent ce message quand il leur est expliqué et qui s'engagent financièrement pour pousser des projets. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé en 2017, on collectait 400 000 euros par an sur la question du journalisme indépendant. L'année dernière, on a fini l'année à 4 200 000 à peu près. Donc c'est un signe pour moi qu'il y a vraiment un mouvement de citoyens et citoyennes qui comprennent qu'en fait, si on ne se mobilise pas maintenant, si on ne propulse pas les projets indépendants en les finançant, il peut se passer des choses extrêmement négatives pour nous tous. Et il y a un mouvement aujourd'hui qui se consolide, qui vient aussi probablement de la fin de la pandémie, où on a tous été... isolé chez nous, qui est de vouloir se retrouver aussi, de se retrouver dans la vraie vie, de se parler, de s'organiser. Il y a aussi un mouvement d'anglicisme, mais d'organizing qui est très fort, qui est en train de se mettre en place dans la foulée des élections présidentielles. Ce que je vous veux raconter par là, c'est qu'il y a un mouvement qui est très clair sur lequel on peut se reposer quand on est un créateur ou quand on est une créatrice indépendante d'un podcast. Comme je le disais un petit peu en introduction, la communauté, c'est le nerf de la guerre et c'est quelque chose d'extrêmement organique qu'on ne peut pas laisser de côté quand on est un créateur indépendant. C'est compliqué de démarrer un projet et de créer sa communauté, mais c'est par là qu'il faut commencer. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'on va raconter, à qui est-ce qu'on va le raconter, pourquoi est-ce qu'on vise, j'aime pas trop utiliser des termes un peu militaires qui sont ciblés, cibles, etc., mais ça finit par devenir un réflexe malheureusement, mais comment est-ce qu'on fait pour cibler la bonne communauté, pour lui proposer les bons contenus en utilisant les bons canaux? C'est le premier truc à faire. Par quel canal est-ce que je vais m'adresser à eux et comment est-ce que je démontre que ma création est partagée par d'autres personnes? Comment est-ce que je fais en sorte de créer un mouvement autour de moi? Souvent, quand on a un podcast, on démarre avec les canaux traditionnels du podcast, mais la meilleure chose à faire, c'est d'avoir sa vitrine à côté. Ça devient de plus en plus difficile de ne pas l'avoir. La vitrine principale aujourd'hui, elle est à la fois incroyable et en même temps dangereuse, c'est les réseaux sociaux pour la grande majeure partie des créateurs. Et pour beaucoup de créateurs et de créatrices dans le domaine du podcast, c'est souvent Instagram qui est utilisé. Mais c'est bien d'avoir cette vitrine-là parce que ça permet ensuite de pouvoir diversifier et de trouver d'autres canaux de communication où on va aller adresser d'autres types d'audiences avec des mécaniques un petit peu différentes. On a du coup son podcast sur ses plateformes de diffusion classiques et puis à côté de ça, on a sa communauté qu'on essaie d'agréger au même endroit et avec laquelle il faut impérativement entrer en conversation. Il ne faut pas proposer du contenu en partant du principe que les gens vont y adhérer sans se poser de questions ou sans avoir aussi de retour à vous faire. Il n'y a rien de mieux que d'entrer en conversation, de dialoguer avec sa communauté et d'essayer de récupérer le maximum de feedback, qu'on soit un gros indépendant ou qu'on soit un petit indépendant, c'est la même recommandation que je fais à toutes les personnes que j'accompagne. Le feedback, c'est extrêmement important. Et la création de conversations, je vais beaucoup en parler, je vais souvent dire ce mot-là parce que je le dis tous les jours, c'est aussi un moyen formidable de faire en sorte que sa communauté soit engagée. Il n'y a pas besoin d'une communauté extrêmement volumineuse. Le Graal, c'est d'avoir les deux. Le Graal, c'est d'avoir une communauté extrêmement volumineuse composée de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes, qui est extrêmement engagée. Ça prend du temps et c'est un énorme boulot et c'est de plus en plus compliqué de réussir à le faire maintenant parce que en fait, des initiatives culturelles qui se créent, il y en a un paquet de bonnes, donc réussir à trouver sa place, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut essayer d'y aller et encore une fois, vraiment, il ne faut pas viser le volume. Il faut vraiment essayer de viser au maximum la qualification, l'engagement de sa communauté. Comment est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes plutôt que d'essayer de m'adresser à des personnes qui sont là parce qu'elles ne savent plus vraiment comment elles ont atterri ici et avec qui, du coup, je n'ai pas forcément de lien que je peux créer. Moi, ce que j'ai remarqué dans le financement participatif au bout de quasiment 5 ans, c'est que malgré tout ce qu'on nous raconte, l'empathie et la solidarité, ça reste un levier immense. Et les gens ont en fait envie de se projeter dans des créateurs qu'ils soutiennent, qu'ils aiment, dont ils aiment les contenus, et ils ont envie aussi de se projeter dans une communauté qui partage des liens d'intérêt culturel qui sont forts. Du coup, la meilleure chose à faire quand on débute ou quand on est déjà assez installé, c'est soit de créer ce lien, cette conversation-là, soit de l'entretenir au maximum. Et du coup, moi, ce que je recommande, en tout cas pour l'instant, c'est d'avoir cette vitrine qu'on peut utiliser pour s'adresser au plus grand nombre, qu'on peut aussi utiliser pour s'adresser potentiellement à des personnes qui vont venir nous financer de manière plus forte que notre communauté. Je parle là, par exemple, plutôt de marques pour des partenariats si on a envie de travailler avec des marques, des mécènes si on a envie de travailler avec des mécènes, etc. Mais en tout cas, des gens qui vont voir qu'on est là, qu'on produit du contenu, qu'il y a des gens qui nous suivent et qui s'intéressent à nous, qui commentent, etc. Donc ça, c'est toujours un très bon moyen aussi de renforcer sa place et de se faire connaître. On a cette première vitrine-là et ensuite, potentiellement, on décline d'autres types d'outils pour essayer d'engager une portion spécifique de cette audience qu'on va avoir sur le premier outil. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est vous avez votre compte Instagram, vous avez 50 000 personnes qui vous suivent sur Instagram, vous n'allez jamais avoir un taux de transformation de 100% sur cette audience-là. C'est impossible. Donc du coup, ce qu'il faut essayer de faire à ce moment-là pour éviter que ce compte Instagram avec 50 000 personnes finisse par s'affaisser, ce qui peut vite arriver quand on galère avec les algorithmes, quand on se fait shadowban parce qu'on a propulsé un contenu spécifique qui ne plaisait pas aux conditions d'utilisation d'Instagram qui varient en fonction de on ne sait pas quoi, quand on n'a plus forcément le temps de poster à un moment donné parce qu'on a une activité professionnelle à côté et que poster du contenu régulier, c'est super compliqué. Le mieux, c'est d'entretenir cette communauté du mieux que possible, de poster de manière assez régulière, de continuer de faire fonctionner l'algorithme. C'est un peu étrange, ce rapport qu'on a aujourd'hui avec les algorithmes. On a un peu l'impression de nourrir la bête, quoi. Mais il faut essayer de faire ça au maximum pour que votre compte ne baisse pas en visibilité et que vous ne vous retrouviez pas avec un taux d'engagement qui soit faible, que vous continuez de faire grossir cette communauté-là, mais surtout, vous travaillez le plus intelligemment possible et le plus rapidement possible à essayer d'isoler une portion spécifique de cette communauté à un autre endroit qui est peut-être plus adapté pour créer de la conversation avec eux. Moi, je connais, parce que j'ai accompagné beaucoup de féministes de la troisième vague, comme on les appelle aujourd'hui, sur Instagram, celles qui sont arrivées à peu près vers 2017. Donc, c'est les comptes qui vont de Clit Révolution en passant par Orgasme et moi, Merci beaucoup, etc. Si vous les écoutez, si vous les connaissez bien, et si vous lisez celles qui publient des livres pour en parler, je pense notamment à Elvire Duvel-Charles qui vient de le raconter dans un bouquin là qui est sorti le mois dernier. La production de contenu, ça peut vite devenir un truc ultra chronophage, super difficile, c'est une charge mentale immense quand on n'a qu'un seul endroit. Et donc là, ce qui est en train de se passer, et qui vient aussi justement des recommandations des différentes plateformes, surtout de financement participatif, c'est le fait de dire isoler une portion sur un autre outil. Et l'autre outil, ça peut être Discord, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être une plateforme de crowdfunding, mais l'objectif, c'est d'avoir cette petite portion avec laquelle on va vraiment pouvoir travailler un engagement très fort. Et c'est ces gens-là, en fait, qui vont vous soutenir financièrement, mais qui ne vont pas juste vous soutenir financièrement, qui vont aussi être limite des ambassadeurs, quoi. J'aime plus trop le terme parce qu'il a été galvaudé et qu'on l'a beaucoup utilisé ces dernières années, mais ça reste quand même plutôt vrai. C'est des gens qui vont vraiment porter votre projet et qui vont le relier, qui vont le partager, qui vont vous faire réfléchir, vous écrire, vous donner du feedback, vous dire « mais ça, je suis pas certain que ce soit le bon truc, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de ça ici, etc. » Et avec qui vous pouvez co-construire. Avec qui vous pouvez co-construire un contenu qui est le plus adapté possible, qui remet pas forcément en cause votre ligne éditoriale non plus. Si vous avez pas envie de suivre ce que quelqu'un vous a dit, vous avez juste pas envie et vous lui dites, et puis vous faites votre truc. Si elle est contente, elle est contente. Si elle l'est pas, elle l'est pas. Mais en tout cas, vous êtes dans une approche de co-construction. Je pense notamment, moi j'utilise beaucoup Telegram, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais sur Telegram, si vous faites un tour, il y a des boucles qui existent avec parfois 20 000, 30 000 personnes, 40 000 pour certaines, qui suivent un créateur de contenu et qui entrent en conversation avec ce créateur-là. Je donne un exemple qui est très spécifique, mais parce que pour moi il est très concret. Je sais pas si vous connaissez une chaîne YouTube qui s'appelle DataGueule. Qui est une chaîne canon, qui raconte des faits de société à partir de données. On a travaillé ensemble à deux reprises, et l'année dernière, il y a 2 ans, on a travaillé sur un documentaire qui s'appelle Utopie. Pour Utopie, on savait qu'on avait la communauté de DataGueule qui est composée de plusieurs centaines de milliers de personnes sur YouTube, soit, mais on a pris le parti d'isoler une petite portion, on les a fait payer 6 euros pour intégrer une boucle Telegram, qui était en fait un carnet de bord, et qui permettait à cette partie-là de la communauté d'entrer en conversation avec l'équipe de DataGueule et à DataGueule de raconter le documentaire qu'ils étaient en train d'écrire, de penser et qu'ils sont aujourd'hui en train de tourner. Et cette boucle, ça fait 2 ans qu'elle existe. Il y avait 1200 personnes au départ. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y en avoir 700, dont moi. Donc, il y a des gens qui sont barrés parce qu'ils en avaient marre. Mais il y a 700 personnes qui sont restées et qui sont en conversation constante avec l'équipe de DataGueule, qui propose des formats, qui propose des corpus pour écrire le documentaire, qui pose des questions sur comment le tournage s'est passé, etc., etc. Et on a, du coup, Henri, Julien, de l'équipe de DataGueule, qui répondent quand ils ont le temps. Ils ne répondent pas tous les jours. Il n'y a pas besoin de modérer parce que c'est une communauté qui est quand même plutôt cool. Donc ça prend pas un temps immense, mais par contre ils ont ces 600 personnes qui sont dans leur communauté composée de plusieurs centaines de milliers de personnes, les personnes qui sont les plus engagées. Et le truc, c'est pour ça que je raconte cette anecdote là, moi le truc qui me fait le plus marrer, c'est que il y a 2 ans je suis parti en vacances l'hiver en Normandie, et le 31 décembre je prends mon téléphone, je vois une notification Telegram, je regarde, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui avaient créé une deuxième boucle en partant de la première boucle entre eux, sans DataGueule, et qui était en train de s'écrire en disant « Qui n'a pas de nouvel an ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un Zoom ?» Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire un Zoom, pour faire un nouvel an comme ça. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un créateur. C'est quand vous avez une communauté qui commence elle-même à s'organiser sans vous, mais qui est encore sous votre houlette, et du coup qui va, sous votre houlette entre guillemets, on s'est compris, mais qui va propulser vos contenus, les relayer, les partager, et qui va potentiellement aussi créer des choses qui venaient de vous au départ et qui vous échappent, et en fait c'est tant mieux, parce que bah, on a besoin qu'il y ait beaucoup de créations comme ça qui se fassent. Donc ça peut être ça, je résume pour remonter un peu le fil, on a sa vitrine principale, qui peut être un compte Instagram, et puis ensuite derrière, on essaie d'isoler une portion de cette communauté qu'on travaille différemment, parce qu'on n'en attend pas exactement les mêmes choses. Et c'est cette portion-là de la communauté qu'on peut potentiellement, j'aime pas le mot parce qu'il n'est pas très beau, mais qu'on peut potentiellement monétiser. À qui, du coup, à un moment donné, on pourra demander du soutien financier, ou à qui on pourra, pas forcément demander du soutien financier, mais en tout cas proposer quelque chose et dire, voilà, si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez l'acheter. Et c'est ce qui permet aussi, quand on est un créateur ou une créatrice de contenu, de travailler des stratégies de développement. J'avais mon projet au départ, j'avais mon podcast, et puis j'ai fait grossir ma communauté, j'ai eu ma vitrine, je suis allé chercher des revenus différemment. Grâce à cette vitrine, j'ai pu avoir des sponsors, j'ai pu avoir des marques, j'ai pu créer des partenariats, j'ai pu aussi aller parler à d'autres gens qui faisaient du podcast pour me lier avec eux et faire de l'acquisition de communauté, parce que en fait ils m'ont relayé auprès de la leur, et comme il y a des liens d'intérêt culturel, il y a des gens qui sont passés, des gens de leur communauté qui sont passés à la mienne et vice versa, donc tout le monde est gagnant. J'ai cette première vitrine là qui me permet de générer du revenu potentiellement de manière un petit peu plus massive sur des tickets un petit peu plus forts, et puis en parallèle j'ai une communauté qui est un petit peu plus restreinte mais qui est 1000 fois plus engagée, avec qui je peux co-construire des trucs. Et grâce à cette communauté-là, potentiellement, ce que je peux réussir à faire, et ça, c'est un peu le Graal quand on est un créateur indépendant, c'est qu'avec eux, je peux potentiellement réussir à avoir un revenu récurrent. C'est-à-dire que ces gens-là, potentiellement, ils peuvent venir me filer 5, 10, 50, 100 euros par mois pour soutenir ma création, parce que c'est les personnes qui sont les plus engagées derrière moi. Et ils ne sont pas juste engagés parce que je suis génial et que mon contenu est canon, ils sont engagés parce qu'en fait, on se parle. Et qu'à un moment donné, il y a un lien d'affect qui finit par se créer, et cette approche un peu surplombante du créateur de contenu, etc., elle finit par disparaître. Et ça, ce rééquilibrage, moi, je le trouve génial, parce qu'il permet justement aussi, de créer plus de liens, et c'est ce dont on a besoin, mais deux, il permet aussi de casser un peu l'approche très... En tout cas, il permet un peu de casser les fantasmes que peuvent avoir des créateurs de contenu en se disant « De toute façon, les gens vont me soutenir, ils adorent mon contenu. » Bah, en fait, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'es plus vraiment sûr de ça. Si tu leur poses pas la question, t'es pas sûr que les gens sont à fond derrière toi. Et si tu poses pas la question et que tu le vérifies pas, le jour où tu les sollicites en étant persuadé que ça va être un carton, en fait, ça se trouve, ça va pas du tout être un carton, parce que tu t'étais pas rendu compte que les gens s'étaient déconnectés de toi au fur et à mesure de ce que tu proposais. Donc créer ce lien-là, créer cette conversation-là, ça permet d'éviter ça. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais sur les trajectoires de développement, ça permet aussi d'envisager des choses qu'on n'avait pas envisagées au départ. J'ai démarré en créant mon podcast, puis j'avais ma vitrine, puis ensuite je me suis relié à d'autres créateurs, j'ai fait grossir ma communauté, puis à un moment donné, j'ai une communauté que j'ai isolée sur un autre canal avec qui j'ai créé un lien qui était plus fort. Ces gens-là ont commencé à me faire remonter du feedback, j'ai amélioré mon contenu, puis ils ont commencé à me financer de manière plus récurrente, puis ce revenu récurrent couplé à un revenu un petit peu plus fort que je suis allé chercher sur des sponsors, sur des marques, etc., m'a permis d'envisager de développer des trucs qui n'avaient rien à voir avec mon podcast. Ou en tout cas qui avaient à voir avec mon podcast, mais qui ne prennent plus du tout le même support. Mettons une bande dessinée, mettons un livre, mettons un documentaire. Victoire Tuaillon et les couilles sur la table, c'est ça. Y a d'autres créatrices ou créateurs de contenu qui ont eu la même approche. Et ça, c'est aussi, mine de rien, déjà très chouette quand on est créateur indépendant de pouvoir envisager des formats auxquels on n'avait pas pensé ou des formats qui nous font vraiment rêver et auxquels on finit par accéder. Mais ça permet aussi justement de générer des lignes de revenus supplémentaires, si on devait parler un peu comme un comptable. Mais ça permet aussi justement de se développer un peu plus et de tester de nouveaux formats, d'aller sur de nouveaux territoires qu'on n'aurait pas envisagé au départ et qui nous permettent là encore de toucher d'autres types de personnes, parce que peut-être que des gens qui adorent la thématique que vous adressez ces gens-là peut-être qu'ils n'aiment pas le format podcast parce que ça les saoule, peut-être que ces gens-là en fait ils peuvent vous soutenir au travers d'une bande dessinée que vous allez co-créer avec soit la revue dessinée parce que vous les connaissez bien, soit avec une autre créatrice qui est une dessinatrice et avec qui vous allez vous lier et réussir à faire quelque chose en auto-édition que vous allez réussir à faire en précommande au travers de mécaniques de financement participatif. Donc cette approche-là, pour moi, c'est la meilleure à avoir de manière générale quand on est un créateur ou une créatrice de contenu, c'est d'essayer toujours de voir le temps d'après, le coup d'après. Et pour moi, ça passe principalement quand on est extrêmement proche de sa communauté et qu'on comprend ce qui se passe, parce qu'au bout d'un moment, on finit par être déconnecté. C'est un peu la même chose que quand vous avez n'importe quelle entreprise, c'est la même chose pour KissKissBankBank. Si nous, on ne parlait pas à nos porteurs de projets toute la journée, si on n'écoutait pas ce qui se passe autour de nous, on finirait par être obsolète très rapidement, parce qu'à un moment donné, tu peux complètement passer à côté d'un virage que tu ne prends pas, et revenir en arrière, c'est compliqué. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire aussi, parce que ça permet de se relier à ce que je disais en introduction. Ça permet de se relier à ce qui se passe là maintenant en ce moment. Ce mouvement de citoyennes et de citoyens qui veulent soutenir la culture indépendante, qui veulent s'engager, qui ne savent pas toujours comment le faire non plus, parce que c'est un point hein, de faire quelque chose, de prendre l'initiative, etc. Tout le monde ne se sent pas forcément à sa place pour pouvoir le faire, donc on est toujours très content quand des gens le font à notre place. Moi, je ne le fais pas, par exemple. Par contre, je mets un oseille monstrueux dans des initiatives que je trouve canon, parce que c'est ma manière de participer. Et donc ça, il faut réussir à compter là-dessus, pour pouvoir pas juste travailler pour vous de manière individuelle en tant que créateur ou créatrice de contenu, mais essayer de participer à un mouvement qui est plus large de comment est-ce qu'on défend une culture indépendante, comment est-ce qu'on défend des récits qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels ou qu'on n'entend pas ailleurs, comment est-ce qu'on défend des visions sociétales même qu'on est en train potentiellement de déconstruire à côté de nous. Et cette approche-là, plus collective, dans une forme de mutualisation plus forte, pour moi, ça va être là clairement le futur de la création indépendante pendant en France et en Europe aussi. Il y a plein de mouvements qui sont en train de s'organiser, pas juste ici, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, et en Europe, évidemment, chez nos voisins, les Allemands, les Italiens, les Britanniques. Il y a de plus en plus de mouvements d'indépendants qui sont en train d'émerger, et les deux angles majeurs que je vois, c'est cette volonté de se relier encore plus fort à sa communauté, et deux, cette volonté de se relier de manière encore plus forte entre créateurs aussi. Et l'intérêt qu'il y a avec ça, c'est qu'une fois que vous êtes lié avec d'autres créateurs, si vous vouliez avec les bons, entre guillemets, il y a une mutualisation, il y a des vases communicants qui peuvent se créer de communauté en communauté. Et ça peut être extrêmement important. Je reviens sur ce que je vous racontais tout à l'heure sur les créatrices de contenu sur Instagram. Ça leur a sauvé la vie, cette approche-là. Et elles ont eu l'intelligence de l'avoir dès le départ. Mais ça leur a sauvé la vie quand les premiers comptes ont fini par tomber parce qu'ils ont été strikés par Instagram, de pouvoir le lendemain lancer une campagne qui était menée par toutes les copines derrière qui disaient « T'as joui » ou « Merci beaucoup, vient de mourir à cause d'Instagram ». Elles relancent leur compte, allez toutes vous abonner. Et si vous regardez ce qui est arrivé à June Pia du compte Jouissance Club, June, c'est exactement ce qui s'est passé. Son compte s'est fait striker par Instagram et quand il a été relancé par toute la communauté de créatrices autour d'elle, il a explosé et elle avait doublé limite son nombre d'abonnés dans la foulée, quoi. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de faire corps et c'est un bon moyen d'être solidaire et de se défendre et de défendre les intérêts de la culture indépendante les uns avec les autres. Et si vous réussissez à le faire entre créateurs et créatrices, vous réussirez à le faire aussi du coup au sein de vos propres communautés. Et à partir du moment où on aura ces deux mécaniques qui se mettront en place, on sera forcément beaucoup plus fort et on sera plus à même de créer plus facilement. Ça fait combien de temps que je parle, je ne sais plus. 17h30, c'est ça ? Ça fait 25 minutes. Je ne veux pas déborder, je sais que j'ai 45 minutes à peu près et qu'on s'était donné un petit temps de questions à la fin. Est-ce que vous voulez qu'on démarre par les questions maintenant ou est-ce que je déroule encore un petit peu plus de ce que je vois ou de recommandations ou de conseils ? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui ? déroule ou vous aviez une question derrière? Oui. Très bonne question. Donc, nous, on a plusieurs canaux de communication pour pousser les projets, les mettre en avant. La première chose, pour revenir un cran en arrière, c'est que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sourcer, entre guillemets, c'est pas joli dit comme ça, c'est du jargon commercial, mais on essaie de sourcer des projets qui sont liés par des liens d'intérêt culturel et qui, du coup, vont provoquer ces vases communicants de communauté dont je parlais tout à l'heure. Quand je travaille avec Nous Toutes pour la première fois en 2018, je sais que derrière, je vais avoir plus de facilité à travailler avec d'autres groupes féministes. Et puis, dans la foulée, je vais travailler avec Lit Révolution. Et puis, dans la foulée, je vais travailler avec Irine Evrose. Et puis, dans la foulée, je vais travailler avec Olympe de Gé. Et là, il y a une communauté qui se crée. Je sais que cette communauté, elle est très proche en réalité. Et qu'une personne qui s'abonne à la Déferlante peut complètement s'abonner à Gaze derrière, peut complètement s'abonner à Sensor si elle en a les moyens. Donc, il y a déjà ce premier travail-là qui est fait chez nous en interne, d'essayer de créer des communautés qui soient cohérentes. Et puis ensuite, en fonction, en effet, on va pousser les projets soit sur nos réseaux sociaux, soit en homepage de la plateforme qui est visitée en fonction des moments dans l'année, parfois par plus de 500 000 personnes par jour. Et puis ensuite, on va aussi les pousser dans des newsletters qu'on fait soit généralistes, dans laquelle on va intégrer 2 ou 3 ou 4 projets qui sont parfois radicalement différents. Vous allez avoir une revue indépendante en premier, puis après derrière des baskets qui sont faites avec du plastique recyclé. Et puis sur certains projets, quand on sait vraiment que ça peut prendre, on va faire une newsletter dédiée sur une audience spécifique qu'on a identifiée. Donc, je vous donne un exemple. Là, j'ai accompagné la revue dessinée et le média d'investigation Disclose, qui ont fait une bande dessinée sur une enquête de Disclose qui racontait comment la France avait vendu des armes à l'Arabie Saoudite qui avaient été utilisées de manière offensive au Yémen. On fait une newsletter dédiée sur 60 000 personnes qui se sont engagées uniquement sur de l'investigation, sur du journalisme indépendant et sur de la bande dessinée et qui se sont engagées ces 2 dernières années. Parce que sinon, potentiellement, c'est un peu moins frais, les gens n'ouvrent plus les newsletters. Et donc là, c'est comme ça qu'on met en avant les projets. Et puis les projets, on les sélectionne en fonction des timings, on les sélectionne en fonction de ce que nous, on veut travailler aussi. On les sélectionne en fonction de ce qu'on sent aussi dans la société à un moment donné. Le push dont je vous parle sur la revue dessinée, on l'a fait entre le premier et le deuxième tour. Et c'est pas pour rien, on savait bien que ça allait être compliqué d'intéresser les gens dans un moment où on était un peu tous englués, quoi. Mais en même temps, c'est une vraie question qui n'était pas adressée dans la campagne. On savait dans la campagne présidentielle, je veux dire. On savait qu'il y avait des gens à qui ça parlerait, quoi. Et ça a parlé, puisque dans la foulée, on a réussi à générer un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui, sur une bande dessinée qui se vend une vingtaine d'euros, est quand même pas trop mal, quoi. Et du coup, je rebondis sur ce que je viens de vous raconter pour pas mettre un sujet de côté, puisque je vous parlais de Telegram, je vous parlais de WhatsApp, etc. Là, il y a le retour de la newsletter qui revient d'entre les morts et qui est extrêmement puissant. Et je vous invite à regarder ce qui s'y passe, parce que là, après, on n'est jamais sûr. Hein, quand des trucs comme ça émergent, on ne sait pas vraiment si c'est une bulle, on ne sait pas si ça va finir par exploser, etc. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça prend quand même plutôt bien. Et on a beaucoup, beaucoup de créateurs aux États-Unis, ici, en Europe, qui reviennent à la newsletter. Je vous donne un autre exemple aussi par rapport à la newsletter. Moi, j'ai accompagné une équipe que j'adore, qui est l'équipe fondatrice de Tech Trash, qui est une newsletter qui se moque de la Startup Nation, et avec qui on a créé une autre newsletter qui s'appelle Climax, qu'on a lancée l'année dernière, qui est une newsletter qui se moque du greenwashing, en gros. Et ça, c'est une campagne à 800 abonnés qui sont venus s'abonner financièrement, donc payer un abonnement à une newsletter qu'ils reçoivent de manière hebdomadaire. Ils ont annoncé, Lorraine et Dan, la semaine dernière, avoir passé la barre des 2000 abonnés. Donc ils ont 2000 abonnés payants sur Climax et puis ils ont 35 000 abonnés sur Tech Trash. Et là, ce qu'on envisage de faire, j'espère qu'ils n'écouteront pas et que si jamais ils écoutent, ils m'en voudront pas de lâcher l'information. Potentiellement, là, ce qu'on envisage de faire, c'est de décliner la newsletter Climax en revue print. Et ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur la trajectoire de développement qu'on peut envisager. Et ça, on le fait uniquement à partir de la communauté et de Tech Trash et de Climax. Et on ne va pas chercher d'autres leviers, etc. Ça se fait vraiment avec ce cœur-là. Et dans ce cœur-là, on a aussi des gens qui donnent de manière récurrente. On a beaucoup de contributeurs de Tech Trash qui donnent de manière récurrente. Et quand vous proposez un boulot qui est vraiment canon et que vous avez une approche que personne n'a, bah, ce que vous pouvez aussi réussir à générer, c'est des gens qui vont mettre des gros tickets. On a des gens sur Tech Trash qui viennent mettre plusieurs centaines d'euros. On a des gens sur des projets, d'autres projets dont je ne citerai pas le nom vu les montants, mais qui vont venir parfois mettre 3 000, 5 000 euros. Je travaille avec un média indépendant, je ne vais pas citer le nom pour ne pas lâcher l'information, mais ce média indépendant qui existe depuis maintenant quasiment 10 ans a reçu en fin d'année dernière un don en crypto-monnaie qui valait pour 5 000 euros, quoi. Et là, a reçu un don à 3 000 euros aussi. Donc quand vous avez cette capacité-là à prouver que votre travail, j'ai pas envie de dire a de la valeur parce que c'est moche, mais en tout cas a de l'impact et parle à des gens, vous pouvez être surpris du niveau d'engagement que les citoyens et les citoyennes peuvent réussir à mobiliser pour vous, et même quand ils vous connaissent pas. Mais c'est encore plus fort quand ils vous connaissent, c'est encore plus fort quand vous les rencontrez et que vous leur parlez. Donc il y a aussi cette approche-là qu'il faut essayer d'avoir, qui est à un moment donné sortir de son isolement, pas forcément, mais en tout cas sortir de sa coquille, quoi, et aller parler aux gens. Moi, ce que je fais là maintenant avec vous, j'étais incapable de le faire il y a encore 6 ou 7 ans. Donc quand on fait cet effort-là, mine de rien, derrière, c'est aussi extrêmement intéressant et important en tant que créateur ou créatrice de projet, de réussir à avoir ce lien-là extrêmement fort avec d'autres personnes qui sont plus juste des membres de votre communauté, qui sont pas juste des followers. Vous m'avez entendu, j'ai pas du tout prononcé ce mot-là une seule fois. C'est pas des followers, c'est pas des metrics ou des données sur un Facebook manager ou je sais pas quoi, c'est des vrais gens, en fait. Et quand on revient à ce niveau-là, qui est pas dingue, mais quand on revient à ce niveau-là de compréhension, on peut faire des choses qui peuvent nous emmener très très loin quand on est indépendant, et qui nous permettent aussi justement de garder notre indépendance. Parce que c'est ça un peu l'objet de toute la discussion, je pense aussi. En tout cas, moi, c'est vers là que l'on se dirige de manière très forte avec KissKiss et qu'on envisage les futurs développements qu'on est en train de construire maintenant. C'est comment est-ce qu'on permet à des indépendants de l'être, mais comment surtout on permet aux indépendants de le rester. Et donc de gérer comme ils l'entendent leur contenu, leur ligne éditoriale, les supports qu'ils vont utiliser et la manière avec laquelle ils vont créer un truc énorme pendant un an et puis 2 ans après, en fait, ça se trouve, ça, j'en ai plus du tout envie, j'ai envie de créer plein de petits trucs, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie d'événementialiser. Réussir à conforter sa communauté autour de soi, comme j'ai essayé de vous le raconter dans un temps très court, c'est ce qui permet aussi de faire ça. Et donc nous, là, on est en train de réfléchir depuis un petit moment maintenant, et puis ça va arriver très rapidement, de faire évoluer nos outils aussi pour aller dans ce sens-là, pour permettre aux créateurs et aux créatrices d'avoir les bons outils pour entrer en conversation avec leur communauté et d'avoir de bons outils aussi pour mettre en place des stratégies de rétention. Parce que le plus dur, quand on a fait rentrer quelqu'un dans sa communauté, c'est de le garder. Et encore plus quand derrière, il y a un don ou un achat qui est fait avec une CB. Donc l'objectif pour nous, là, c'est de développer ça au maximum et puis de participer, comme on le fait là maintenant, avec des acteurs comme Acast ou Grand Contrôle ou avec d'autres acteurs, pour les Lyonnais qui se seraient cachés dans la salle, comme Artifarty ou que sais-je, d'essayer de renforcer et de créer cet écosystème-là qui sert uniquement les indépendants et qui participe à faire en sorte de défendre cette culture indépendante dont on va avoir grandement besoin dans les prochaines années. J'ai répondu à rallonge à votre question, mais si vous avez d'autres questions, oui. Alors, la première catégorie, en tout cas, si on remonte à l'année 2021, c'est médias indépendants. La deuxième, c'est l'édition. Donc, journalisme, édition, c'est très fort. Ensuite, audiovisuel, musique, donc très, très culture. Et puis après, derrière, on a du solidaire, ce qu'on appelle le solidaire encore aujourd'hui, donc c'est plutôt le monde associatif, en gros. Le monde associatif et... Pierre, je te regarde devant tout le monde. Je m'arrête là, à peu près. Ouais. Et ben, dans les 7... Les 7 premières catégories, c'est ça. Ensuite, derrière, tu vas redescendre sur des montants qui sont un peu plus petits, dans lesquels tu vas trouver de l'artisanat, tu vas trouver du patrimoine, tu vas trouver ce qu'on appelle l'entrepreneuriat for good. Et dans l'entrepreneuriat for good, tu vas trouver du textile, etc. Mais en gros, la culture, ça reste aujourd'hui le levier principal de KissKiss. Et les médias, l'édition, c'est ce qui est en train d'exploser, mais en réalité, c'est ce qui est en train d'exploser sur toutes les plateformes de crowdfunding, sur le marché français, mais aussi chez les Américains, parce que si tu regardes chez Kickstarter, aujourd'hui, il n'y a plus que ça. En fait, ce qui nous distingue sur l'accompagnement, c'est qu'on est les derniers à accompagner, n'y a plus aucune plateforme de crowdfunding qui accompagne, parce que quand on a un business model qui est une commission à 8% sur le montant collecté, soit tu fais un volume de plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions d'euros par an, et donc à ce moment-là, tu peux accompagner tout le monde, soit ce n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas pour la grande majeure partie des plateformes, et donc du coup, tu ne peux pas déployer ce qu'on appelle du temps homme, tu ne peux pas mettre des humains derrière l'accompagnement. Nous, on est les derniers à le faire. Donc, on accompagne les projets. Tous les projets qui sont lancés sur la plateforme ont ce qu'on appelle un coach en phase 2, qui est Pierre ou Emma ou Clémentine ou moi-même ou Jean-Samuel ou Adrien, etc. Et l'accompagnement est un accompagnement qui est essentiellement stratégique. Nous, on ne fait pas d'opérationnel. On ne va pas créer le plan de com et créer les contenus, etc. On peut le proposer si vous avez les moyens. On peut vous faire des prestations de services qui seront moins chères que le marché et qui vous permettent aussi d'être, qui permettent d'être faites par des gens qui savent bien le faire. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on encadre stratégiquement la campagne. On vous donne les bons exemples, les bonnes recommandations et surtout, on vous fait descendre une expérience qui a 13 ans, de vous dire, en fait, ça, ce projet-là où toi, tu es persuadé que c'est un carton en crowdfunding, ça ne marche pas. On l'a vu, on l'a testé, on a essayé, on s'est pris les pieds dans le tapis 15 fois. C'est pas du tout le bon truc. Et potentiellement, ce qu'on fait nous aussi et qu'on doit être les derniers à faire, c'est qu'on dit si on est le bon outil ou si on n'est pas le bon outil. Et si on n'est pas le bon outil, on n'a aucun souci à dire c'est pas ça qu'il faut aller chercher dans le développement de ton projet. Il vaut mieux plutôt te diriger vers ceci ou vers cela. Donc là, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Et puis au fur et à mesure de ce qu'on prévoit de déployer dans un temps futur, on n'est pas du tout fermé à l'idée de passer aussi sur un format de conseil. Qui n'est pas juste du coup de l'accompagnement, mais qui est d'aller beaucoup plus loin. Ce qu'on peut se permettre de faire sur des projets qui vont aller collecter beaucoup d'argent. Moi, sur les projets sur lesquels je travaille, on est plus sur du conseil aujourd'hui que sur du coaching, et je vais passer plus de temps, parce qu'on peut se le permettre derrière, puisque la rémunération de Kiss est meilleure. Je suis très franc avec vous, hein, je vous raconte vraiment comment ça fonctionne. Mais du coup, à un moment donné, on peut aussi aller jusque-là. Donc on est sur encadrement stratégique, coaching, tout au long de la campagne, mais aussi en amont. Après la campagne aussi, parce que on vous laisse pas partir sans être sécurisé. Et l'autre élément qui est assez important pour moi, mine de rien, qui nous distingue, c'est au-delà de la performance de la plateforme et de la stabilité de la plateforme et des outils qu'on propose, on est aussi extrêmement carré sur tout le cadre réglementaire. Et ça peut paraître un peu étrange de le dire comme ça, ou anecdotique ou pas, mais en fait, en réalité, pas tant que ça, parce qu'on vous protège et on protège vos contributeurs dans un cadre réglementaire qui est imposé. Et si demain l'administration fiscale ou que sais-je vient taper à votre porte en vous demandant ce que vous avez fait, vous êtes en mesure de pouvoir prouver que vous étiez dans les clous parce qu'on vous donne toutes les informations possibles pour pouvoir le faire, quoi. Et ben, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.